avec micro standard, pas de cauchemar.
Des rencarts avec micro standard.
Bazar.
La mer ailleurs.
Micro standard, on est des couche-tards.
Sonore.
Avia.
Bien bon là-bas.
Rencard.
Anna.
Micro standard, tout un art.
Pas de lézard. Écoutez micro standard.
L'émission des stars.
Viens, on part.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Micro Standard. Vous nous écoutez sur Radio Nord-Bretagne, Radio Pays de Léon et Radio U et notre site internet. C'est la 60e émission. Avec toute l'équipe, on va vous parler de l'écoute. Bonjour !
Vous allez entendre au cours de cette émission des interviews, une fiction, de la musique. Attention à ce que vous dites, vous êtes sur écoute.
Bonjour à tous, nous sommes au festival Longueur d'onde et nous allons interviewer Anaël.
Eh bien bonjour, je m'appelle Anaël Abasque, je suis coordinatrice de Radio Phoenix, une radio locale cannaise qui fait partie du réseau Radio Campus France. Et le réseau Radio Campus France est une fédération nationale qui compte 29 radios réparties dans les différentes régions françaises. Moi j'ai commencé la radio à Radio U, à Brest, lorsque j'étais étudiante en classe prépa à Kerichen. Et un jour, j'ai séché les cours d'histoire pour venir à Longueur d'onde. C'est là que j'ai eu le déclic de la radio. Et je me considère comme un bébé de Longueur d'onde.
Bonjour, Didier de Radio Standard. Quelle est la différence entre une radio associative et une radio privée ?
Eh bien, la différence entre une radio associative et une radio privée, déjà, c'est l'indépendance éditoriale. Dans une radio associative, on n'a pas du tout le même fonctionnement que dans une radio privée, puisque déjà on dit rarement directeur, on parle plutôt de coordinateur ou de coordinatrice, ce qui permet d'avoir un fonctionnement plus horizontal, de laisser plus de place à toute personne qui rentre dans la radio et qui participe. Dans une radio associative, en fait, les personnes, les employeurs, ce sont des bénévoles. On appelle ça le bureau, et donc qui est dirigé par un président ou une présidente. Et ensuite, il y a le conseil d'administration. Donc, ce sont eux les employeurs, alors que dans une radio déjà privée, ce serait un directeur ou une directrice. Donc ça, c'est la base un peu de tout type d'association. Et puis, si on parle éditorial, une radio associative... Bah déjà, chaque radio associative a sa propre ligne éditoriale. Si on parle un peu là du réseau Radio Campus France, puisque je suis coordinatrice antenne de Radio Phoenix, une radio membre du réseau Radio Campus France. Et donc, pour finir sur les différences entre radio privée et radio associative, qui dit radio associative, qui dit association, dit bénévolat. Et c'est un peu là qu'on se démarque, c'est qu'en fait, dans nos radios associatives, il y a 2 ou 3 ou 4 personnes salariées. Et ensuite, les personnes qui rentrent et qui font vivre la radio, ce sont des personnes bénévoles, donc ils ne sont pas payés pour. C'est-à-dire que c'est un engagement citoyen, ce sont vraiment des citoyens et des citoyennes qui viennent nous voir. Ça peut être des étudiants et étudiantes, puisque nous, on est présents sur les campus, donc les universités. Mais ça peut aussi être des personnes qui sont curieuses, qui ont un intérêt pour le son, ou par le journalisme, ou par la musique, puisque en fait dans nos radios, on parle vraiment de sujets assez divers et très différents. On peut parler très bien, on peut avoir une émission de musique électronique et une émission de culture scientifique le midi. Enfin voilà, ça peut vraiment... Nos grilles de programmes sont très diverses.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple de choix éditorial que tu aurais pu refuser de faire ?
Là par exemple, souvent en septembre, c'est là que commence la nouvelle saison, donc on a plein de personnes qui viennent frapper à nos portes avec des envies de projets, ou alors nous aussi on se rend dans différents espaces publics pour expliquer que nos radios sont ouvertes et qu'on peut accueillir des personnes qui n'ont aucune expérience en radio et qu'on est là pour apprendre. Et donc, par exemple, en septembre dernier, on a eu une équipe de personnes qui voulaient faire une émission un peu en bande d'amis. Et donc, ils se mettaient autour de la table avec un sujet de pop culture. Donc, ça pouvait être le cinéma ou la street food ou les mangas. Et en fait, donc on a fait une émission pilote, parce que le pilote, c'est ce qui permet de voir si, un peu la qualité déjà de l'émission, refaire ce qui ne va pas, améliorer le conducteur. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de, justement, de propos, il n'y avait pas de préparation dans cette émission, que c'était, en fait, chacun donne son avis sans préparation, sans travail de recherche. Et nous, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on défend à Radio Phoenix. Nous, on défend la recherche, on défend, justement, aussi la précision. Et là, en fait, cette émission, elle avait pour vocation d'être juste après notre quotidienne d'actualité culturelle. Et on ne pouvait pas faire une quotidienne d'actualité culturelle avec un certain niveau, quand même, où il y avait de la précision, etc., des données, de la recherche. Et ensuite, une émission où juste chacun donnait son avis, comme ça, sans recherche. Donc là, c'est une émission qu'on a retravaillée et qui, aujourd'hui, a pris forme et une forme qui correspond, justement, à Radio Phoenix. Mais au départ, ce n'était pas du tout le cas. Mais avec du travail et plusieurs émissions pilotes, du coup, on en a fait 4, je crois, pour obtenir un résultat qui collait à notre grille d'antenne et à notre cohérence éditoriale.
Dans une radio associative telle que Phoenix, qui décide du choix de la programmation ? C'est les bénévoles ? C'est le bureau ?
La programmation des émissions, on va dire que je supervise, comme je suis à la coordination d'antenne. Mais ensuite, c'est quand même... en effet, j'ai dit, un conseil d'administration. Donc, lorsque je rencontre un problème ou que j'ai un doute ou que je suis pas sûre de moi, je fais appel au conseil d'administration et je discute avec eux. Et voilà, c'est vraiment des discussions, un espace de discussion. La programmation musicale, c'est mon prédécesseur, Guillaume Costard, qui est toujours en charge. Mais en fait, maintenant, on travaille plus à deux. Lui, pendant 20 ans, il a fait vraiment la programmation musicale de Radio Phoenix. Et aujourd'hui, on a une playlist commune où je propose des sons et il les ajoute, etc. Donc voilà, on est à deux à la programmation musicale. Mais bien sûr, on se nourrit aussi des recommandations de nos bénévoles qui ont des émissions culturelles, musicales.
Et est-ce que le bureau, une autre question, c'est comme une association de loi 1901 ou c'est différent ?
Ouais, Radio Phoenix, c'est une association loi 1901.
Comment ça se passe d'un point de vue finance par rapport à une radio privée ?
Eh bien, les radios associatives dépendent de plusieurs subventions publiques. La principale, c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc en fait, tous les ans, on répond à un dossier qui s'appelle le FSER, qui découle du ministère de la Culture. Et donc ça, c'est pour l'État. Ensuite, il y a également des subventions régionales, départementales, municipales aussi. Ça peut être la ville qui donne des subventions. Et nous, à Radio Campus, on a cette singularité d'avoir aussi des subventions des universités. Après, ça dépend vraiment de chaque ville, de chaque université. Et ensuite, on nourrit nos financements et la radio se développe aussi par rapport à différents appels à projets auxquels on répond.
Et d'un point de vue communication, vous êtes sur les réseaux sociaux vous...
Ça, c'est compliqué. Oui, on est sur les réseaux sociaux. Je crois que les Radio Campus sont principalement sur Instagram. On a quitté X récemment, la plupart. Et sinon, certaines essayent de aussi prendre de la place sur Twitch. Donc faire des live Twitch, c'est quelque chose que je sais s'essayent différents membres des radios. Et on a aussi des sites internet, et ça c'est notre principale base en communication, c'est qu'on a tous des sites respectifs où on communique où on met à disposition nos émissions en replay ou nos podcasts natifs, et où on essaye de faire des articles sur notre actualité, les événements que l'on met en place. Mais ça, j'avoue que c'est un peu le chat noir des radios associatives, parce qu'on n'est pas très fort en communication, parce qu'on a rarement des personnes dédiées à ça. Je sais qu'à Radio U, il y a quelqu'un qui est dédié à la communication, et ça, c'est une chance. C'est génial. Parce que sinon, si on n'a pas quelqu'un dédié à ça, ça veut dire qu'il faut qu'on l'intègre dans nos heures salariées ou qu'un bénévole en prenne la charge. Mais c'est pas toujours ce que veulent les bénévoles qui viennent frapper à la porte des radios associatives. Généralement, c'est faire de la radio. Je peux préciser quand même que la meilleure source de communication, ça reste le bouche à oreille, et donc il faut être présent, il faut en parler dans les espaces publics, et surtout compter sur la philosophie boule de neige, où plus on en parle et plus ça va se perpétuer et se répéter. C'est ça, quand même ça reste la meilleure stratégie de communication.
Et pour finir, est-ce que tu as connu Radio Mutine sur Brest ?
Oui.
Ça n'existe plus, c'est une super radio ça. Radio Mutine existe toujours. C'est quelle fréquence, Mutine ?
103.8.
Quelle année t'étais à Mutine ?
De janvier 2021 à janvier 2023.
Trop fort.
Ouais, c'était bien. C'était rock. Merci beaucoup et bonne continuation.
Merci.
Suite à ce moment passé avec Anaëlle, nous nous sommes prêtés au jeu de l'interview.
On commence par l'interview de Gwendal.
J'avais envie de parler de la sortie de Yann Mouax, le chroniqueur sur C8, qui a littéralement insulté les joueurs de jeux vidéo publiquement. Alors je sais pas qui il avait en face de lui, mais je pense que c'était parce que bon, il y a eu une affaire dramatique, enfin il y a eu une affaire criminelle sordide et on a découvert que là-bas. Que cette personne était grande joueuse de jeux vidéo. Du coup, on a remis sur la table, ouais, les jeux vidéo, ça rend violent. Et le chroniqueur de C8, Yann Mouax, a vraiment dit que les joueurs de jeux vidéo, c'est des abrutis qui se liquéfiaient le cerveau en jouant. Alors là, lui, il s'en est pris plein la gueule, hein, après, hein, de la part de la communauté des joueurs de jeux vidéo.
Et toi, t'en penses quoi ?
Je pense qu'il est complètement à côté de la plaque, parce qu'on dit les jeux vidéo, c'est le dixième art. Hein. On peut raconter des histoires, on peut évoquer certains sujets, même des sujets psychologiques. Parce que je ne sais pas si vous connaissez. Alors il y a un jeu qui a deux épisodes qui s'appelle Hellblade. Et en fait, Hellblade, qui a été développé en collaboration avec des psychiatres, c'est de l'héroïne et schizophrène. Et ils ont représenté la schizophrénie dans le jeu vidéo, quoi. J'ai entendu ses propos, il y a encore un mec qui connaît rien, quoi. Faudrait qu'il voit certains événements liés aux jeux vidéo. Je sais pas si vous connaissez le site Twitch, je crois qu'on en a déjà parlé une fois. Twitch est une plateforme de streaming où on peut streamer en direct des parties de jeux vidéo et on peut collecter des fonds avec Twitch. C'est-à-dire, on peut faire des streams au profit d'associations caritatives. Ça a été mon cas. J'ai fait un petit stream. Bon, j'étais pas tout seul. Et au profit de l'association Clowns Hôpitaux. Mais le gros qui a lieu chaque année s'appelle le Z-Event. Où les streamers sont des gens bien connus. Quoi. Je crois que le fondateur de cet événement, son pseudonyme, c'est Zerator, d'où le nom Z-Event. Et il réunit les plus grands streamers, ils font des streams, ils font des marathons de streams et ils collectent des fonds pour certaines associations. Donc là, c'est aussi pour reparler du code de ce que le jeu vidéo peut apporter de positif.
Si je comprends bien, ce qui t'énerve, c'est d'entendre des gens prendre la parole sur le sujet alors qu'ils y connaissent rien, en tout cas qu'ils y connaissent rien pour toi ou par rapport à toi, et du coup qui défonce un peu les jeux vidéo sans rien y connaître.
Bah oui, c'est ça. Il s'arrête à des clichés, en fait. Je pense que ça, y en aura toujours, quoi. Mais bon, la violence et tout ça, c'est on n'a pas attendu les jeux vidéo pour parler de sujet. Le débat est vieux comme le cinéma. Hein. Ouais, il y a le cinéma avec les films violents, voilà, les films d'horreur, les films d'épouvante qui peuvent parfois pousser certains à passer à l'acte, de la télévision, en tout ça, il y a même quoi. Tu peux parler d'un autre phénomène aussi, c'est le catch, hein, qui est très populaire chez les jeunes, mais justement, faut surtout pas essayer d'imiter ce qu'on voit à la télé, quoi, que ce soit un match de catch ou autre chose, quoi. Parce que la télé, c'est comme les jeux vidéo, c'est un autre monde, quoi. Il y a du positif dans le jeu vidéo, il y a le côté narratif de certains jeux. Je crois que j'ai même entendu parler d'un professeur qui a utilisé un jeu vidéo pour enseigner la philosophie. Alors il a pris le jeu vidéo adapté de la série The Walking Dead, mais dans ce jeu vidéo, il y a des décisions à prendre, et certaines décisions sont très 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 difficiles. Et puis le jeu est tellement bien réalisé qu'on s'attache au personnage, comme si on regardait la série. Et si à un moment on doit sauver un personnage mais en sacrifier un autre, c'est là qu'on entre dans un dilemme cornélien, quoi. Hein.
Et ton avis par rapport à ça, c'est quoi ?
Bah, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas la réalité, mais aujourd'hui le jeu vidéo est de plus en plus. Après, l'addiction à certains jeux vidéo, surtout aujourd'hui, c'est un peu aussi la responsabilité des développeurs, parce que les jeux vidéo sont construits de façon très différente. De ce qu'ils étaient dans les années 2000. Hein. Dans les années 2000, on avait des jeux complets, voilà, on commençait l'histoire, on la terminait, et après sont arrivés ce qu'on appelle les DLC, Downloadable Contents, contenu téléchargeable. Pour certains jeux, ça rajoute par exemple une histoire à celle qu'on avait déjà faite, ou alors, mais là je parle des jeux exclusivement multijoueurs, je vais prendre l'exemple Fortnite, et ben les développeurs, ils n'arrêtent pas de sortir des skins, des nouvelles choses qu'il faut payer à chaque fois. Et ça, quand on est adulte, on peut ou pas gérer un petit peu, mais la cible, c'est vraiment les plus jeunes, quoi.
Ton avis par rapport à ça, c'est quoi ?
C'est un peu trop, voilà, j'ai envie
c'est
de dire.
C'est un peu trop ? Tu pourrais expliquer un peu plus ? Tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Bah parce que les jeunes qui ont 12 ans aujourd'hui, évidemment, ils n'ont pas la possibilité d'acheter ce qu'ils veulent quand ils veulent. Hein. Bon, certains adultes aussi, malheureusement, hein. Il y a des pauvres. Mais donc, il y a eu des cas, effectivement, de parents qui ont porté plainte contre certains éditeurs parce que le gamin avait subtilisé la carte bleue des parents et avait dépensé des sommes colossales. Hein. Oui. Rien que pour du cosmétique, quoi, c'est-à-dire juste des apparences dans un jeu. Bah, on peut comparer la bande dessinée et le jeu vidéo parce que à l'époque où ça a été commencé, moi j'ai pas vécu cette période-là, mais les débuts de la bande dessinée comme Bécassine, les adultes disaient que c'était très mauvais pour les enfants, quoi, parce que avant que la bande dessinée, ils lisaient des livres, des romans, et quand la BD est arrivée, ils disent mais ça va les abrutir, quoi, ça va tuer leur imagination. S'il y a des images pour illustrer et tout ça, et aujourd'hui la BD c'est le 9e art. Et on peut dire la même chose du jeu vidéo qui, pour certains, est le 10e.
Pour finir, j'ai une question existentielle à te poser. Entre le virtuel, c'est ce que tu fais, les jeux vidéo, et la réalité, qu'est-ce que tu préfères ?
Je pense que c'est plutôt le réel. Bon, je vais sortir un jeu de mots idiot, le réel, parce que je le veux bien. Et parce que les gens dans les jeux vidéo, surtout les jeux multijoueurs, ils se permettent des choses qu'ils ne pourraient pas se permettre en réalité. Par exemple, si j'avais envie de t'insulter, Didier, de te traiter d'abruti, on n'oserait pas traiter quelqu'un d'abruti en face, quoi. Par contre, dans un jeu vidéo, il n'y a qu'à regarder certains streams, il n'y a qu'à regarder certains commentaires, et ben là, ils se le permettent, hein, je veux dire, ils traitent le joueur ou la joueuse. Ouais, la joueuse plutôt, avec des propos misogynes. Ouais, t'es une fille, t'as pas le droit, tu devrais pas jouer aux jeux vidéo, tu devrais faire des gosses. Mais là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on se croit complètement anonyme derrière son écran sur internet, alors que c'est pas le cas. Hein. Et c'est un. Faut pouvoir encaisser ça, quoi.
Micro-sonar, yes, you are.
Round and round, the beat goes round and round. Have you really got it?
Alors lui, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
On vient d'écouter Radiohead et le titre de la chanson, c'était Jigsaw Falling Into Place.
Merci lui. Maintenant, nous allons retrouver l'interview d'Amélie.
Alors, j'ai commencé les jeux de société, je pense que j'avais 4 ans. Enfin, j'en ai fait comme tout le monde, j'ai fait les petits puzzles en bois quand j'étais petite, mais vraiment, j'ai commencé les mémories, j'aimais beaucoup les mémories quand j'étais jeune. Après, vers l'âge de 10 ans, j'étais beaucoup sur le nain jaune, j'ai commencé les puzzles, je sais pas, c'est pas tout à fait du jeu de société, mais ça peut rester quand même dans les passions que j'ai faites avec le jeu de société. Et en fait, ça s'est développé, on va dire, il y a 10 ans, où là, vraiment, j'ai commencé à me faire une ludothèque à la maison, sachant que quand j'étais petite, j'allais à la ludothèque toutes les semaines. Et là, j'ai commencé à faire ma ludothèque chez moi. J'aime beaucoup les jeux coopératifs. Tout à l'heure, j'ai cité le fait d'aimer les jeux coopératifs. J'adore ça, j'adore les escape games, que ce soit en jeu à la maison, parce qu'on peut faire des escape games à la maison, j'en ai pas mal. Et les escape games en salle, évidemment. Et c'est vrai que les jeux coopératifs, ça a un autre intérêt, c'est une autre mécanique, et j'en ai pas mal à la maison, et c'est vrai que je joue avec ma mère à ces jeux-là, et en fait, il y a presque plus d'émulation, de bonheur à jouer à ces jeux-là, que de jouer l'une contre l'autre. J'ai trouvé quelqu'un qui joue et qui joue à des jeux comme moi, c'est-à-dire qui savent jouer, enfin, qui sont capables de jouer 2 heures. Enfin, tout le monde n'aime pas jouer 2 heures. Il y a des gens qui aiment bien sur des petits jeux d'une demi-heure. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de gros jeux qui durent entre 1 heure et 2 heures, voilà, 1 heure et demie en moyenne. Et c'est pas facile de trouver des gens qui jouent à autre chose que la bonne paye ou le nain jaune.
Une autre question, est-ce que tu aimes bien les jeux de cartes ?
Alors, je jouais beaucoup à la belote avec mes grands-parents. C'est quelque chose, c'était une tradition. C'était la seule chose qu'on faisait ensemble, il faut le dire. On jouait à la belote et on mangeait ensemble. Sinon, tout le reste, à la maison, c'était chacun pour soi. Et j'aime beaucoup le tarot aussi. J'y jouais quand j'ai passé le BAFA. C'est là-bas que j'ai appris. Voilà, ça sert à ça de passer le BAFA et d'être animateur. Ça sert à apprendre à jouer au tarot le soir après la réunion. Mais ça fait très longtemps que je ne joue plus aux cartes parce que je n'ai plus de personne pour jouer. Il faut être 4 pour jouer à la belote. Et le tarot, c'est encore pire parce que moi, j'aime le tarot à 5 avec l'appel au roi. Et du coup, c'est pas évident de trouver 4 personnes pour jouer en fait.
Au Folgoët, à la bibliothèque, il me semble qu'il loue des jeux à jouer donc ouais. En famille. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative là ?
Ah, moi je trouve ça top. Moi je, alors peut-être parce que du coup je suis une passionnée de ça, mais je trouve que les jeux de société c'est vraiment. Je fais aussi des jeux vidéo pour rejoindre ce qui avait été dit avec Gwendal, mais. Le jeu de société, c'est quand même une mécanique, c'est une réflexion, c'est de la patience, c'est apprendre à perdre, c'est une école de la vie en quelque sorte. Il y a la gestion des émotions.
Et moi, je me demande, est-ce que tu aimerais inventer un jeu ? Ou tu as déjà commencé ?
Alors, je l'ai déjà fait.
Ah.
J'ai inventé 2 escape games. Sur le thème, désolé, c'était pour les infirmiers. En fait... J'en ai fait un pour mes infirmiers du CMP quand j'étais à Fontenay. Le CMP, je le connaissais par cœur. J'observais beaucoup. Il y avait des codes sur leurs ordinateurs. Il y avait des choses dans la salle d'attente. Enfin, il y avait tout un tas de trucs qu'on fait que j'ai pu créer un escape game là-dessus qui a plu. Et en fait, j'ai été hospitalisée des semaines après. En fait, généralement, c'est quand je suis up que je fais ça. Quand je vais pas bien, j'y arrive pas. Et là, j'ai carrément créé un escape game avec. En fait, ils recherchaient un patient dans l'hôpital qui avait disparu de sa chambre. Ouais. Et c'est pareil, ça a super bien marché. Et voilà. Et je me suis servi de matériel que j'avais dans un escape game que j'ai fait à la maison. L'escape game, on peut le faire qu'une seule fois. Ouais. On peut le faire qu'une seule fois, donc du coup, je garde le matériel. Il y a des roues, il y a des petits objets, etc. Je garde et j'ai réutilisé dans mes escape games.
Amélie, je dois te faire un aveu. On disait de moi quand j'étais petit que j'étais un très mauvais joueur. Et je voudrais savoir quelle était ta définition du mauvais joueur et est-ce que tu avais des expériences de mauvais joueurs à nous faire partager ?
Alors, pour moi, il y a deux différences. Il y a le mauvais joueur et il y a le malin. Moi, je fais partie des malins. Et je ne suis pas mauvaise joueuse. Quand je perds, je suis contente que ma mère gagne, en fait. C'est ça, voilà, ou ma sœur gagne ou mon frère gagne. Parce que c'est avec eux que je joue le plus souvent.
Amélie, oui. C'est quoi ton mot de la fin, alors ?
Acheter des jeux. Et aller dans des boutiques pour les acheter pas sur Internet. Sauf si vraiment il y a une grosse différence de prix, mais pour 2 euros, on peut aller dans une boutique.
Et maintenant, place à l'humour. Chères adhérentes, chers adhérents, merci d'être venus aussi nombreux à l'Assemblée Générale ce soir.
Alors moi, je représente l'association des déprimés. Donc c'est tous les DD qui ont été primés. Alors il y a DD Ginet qui a eu le prix Goncourt l'année dernière, DD Pascal qui est le César du cinéma en 98, DD qui a eu le prix Nobel de littérature l'année dernière, et puis tous les DD primés quoi. Le prix Nobel de chimie, la médaille Fields par DD Jackson et puis DD Lambrouille quoi, tous les DD primés quoi. Voilà,
cette passion m'a animé depuis mes 10-12 ans. Donc rock and roll pour ce soir.
Je trouve que c'est une bonne idée tout ça. En fait, moi je le verrais bien sur une moquette fuchsia accompagnée de paillettes. Parce que du coup ça permettrait de sortir le stock et parce qu'on l'a depuis un moment et par rapport au, on pourrait faire un tapis rouge pour les pour la remise de prix des prix d'aider et moi j'ai l'impression qu'on est sur un bon projet là, on tient un truc.
Moi j'ai une super nouvelle à annoncer, c'est mon anniversaire bientôt et je tiens à remercier un ami qui m'a fait un super cadeau. J'en ai parlé à un membre de l'asso Standard. Il m'a offert la place pour le festival Rock en Stock qui tombe en mai, le mois de mon anniversaire, le plus beau mois de l'année pour moi. Donc on va aller voir deux groupes parisiens, des professionnels et 13 groupes de l'asso de musique loisir de l'Aisne-Vin. Il me paye la place, il m'a envoyé un texto hier et je suis super content et je crois que c'est l'amitié, la plus grande preuve d'amitié qu'on puisse me faire, c'est me faire ce cadeau sans rien demander. Et je tiens à remercier tous mes amis qui sont devenus ma famille et en qui je crois énormément et à jamais le rock'n'roll, et le rock'n'roll ne mourra jamais. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Merci Didier.
En tant que présidente, je voudrais qu'on s'écoute. Là, ça suffit maintenant. Chacun parle dans son coin. Je voudrais bien un petit peu attirer votre attention sur le sujet là. Du jour.
Moi, je fais des leurres. Parce que c'est bientôt l'ouverture de la pêche. Donc j'aimerais quand même qu'on garde un stock assez important. Et donc, mais tu peux me répondre sur le stock de paillettes ? Parce que j'en ai besoin pour les leurres.
Je peux t'en prêter, on en a un carton entier.
Mais il faudrait voir par rapport au budget, justement, parce que là, j'en sais rien. Ou alors, mais la présidente, elle dit quoi ? Présidente ? Présidente ? Président.
Stop. Silence. Écoutez-moi maintenant. Je voudrais parler. Vous parlez dans tous les sens. Je comprends rien ce que vous dites là. Je voudrais attirer votre attention sur le sujet du jour.
Ouais, là, le sujet du jour, c'est avant tout la dégradation dans les toilettes des gars. Non, c'est vraiment déplorable. Sylvie est encore en arrêt maladie parce que elle veut briquer les toilettes toute la journée.
C'est un vrai sujet. Moi, je. Moi, je suis un représentant du CCP, le comité contre les pâtissiers. Vous vous rendez compte, ces gens sont cruels. Ils battent les œufs, ils fouettent la crème, c'est scandaleux, quoi.
Oh, oh,
oh, oh, oh. J'écoute vos revendications à tous et à toutes, mais on va revenir au sujet du jour qui sont l'état des toilettes dans la salle municipale.
Maria, notre présidente, il est déjà 11h28 et je vois que le temps s'effiloche. Je vous rends la parole.
Oui, je la prends. Je vous souhaite bonne journée. Au revoir.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wind of silence. And the people bowed and prayed to a neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering.
Jean-Michel, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Nous venons d'écouter The Sounds of Silence, d'après Simon & Garfunkel, le duo célèbre de folk rock américain, je crois.
Jean-Michel, on te retrouve tout à l'heure, mais d'abord on écoute Théo.
Dans la Renaissance, les deux plus grands peintres qui ont marqué l'histoire, c'est Michel-Ange et Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était convoqué par le roi de Florence, si je me souviens bien, le roi de Florence, et le roi lui a demandé de créer des chars de guerre. Donc Léonard de Vinci a dit oui, et Léonard de Vinci s'est rendu compte. Léonard de Vinci a dit oui, et au fil du temps, il s'est rendu compte que le roi lui demandait trop de choses par rapport à ça, donc il a décliné l'offre. Et le roi de Florence lui a dit, écoute, tu as signé, t'as signé. Donc il est parti, il a rencontré deux autres peintres comme Rembrandt, Michel-Ange, El Greco, et puis d'autres peintres, je pourrais pas vous citer parce que j'en ai trop en tête. Michel-Ange a voulu reprendre, a fait la chapelle à la Sistine, à Rome. El Greco, lui, il a voulu repeindre, reprendre la peinture de Michel-Ange dans la chapelle Sistine. Et donc, du coup, le pape lui a dit, c'est hors de question, tu touches pas à la peinture de Michel-Ange, c'est son œuvre. Et El Greco a touché quand même. Et il a été expulsé de Rome.
Est-ce qu'il y a des contemporains?
contemporains, il y a Lucien Freud, il y a Marie-Laure, Marie-Mort Melchior, qui elle travaille sur du métal, avec qui j'admire son travail. Elle est du Mans. Gaspard Schlum, mon professeur, qui lui travaille sur les arlequins et les commedia dell'arte. J'ai pris des cours de peinture et mon professeur nous a appris à copier des tableaux. Et moi, j'étais le seul à part à ne pas le faire, parce que c'est recopier un tableau, ça s'appelle du plagiat. Et à des moments, des droits d'auteur de plusieurs peintres. Donc moi, je faisais la transformation. Je fais la transformation. Et non du copiage de maîtres, de grands maîtres de la peinture.
Donc en quoi tu dirais que Rembrandt, ou tu non, c'est pas Rembrandt que t'as parlé, c'est qui ?
Michel-Ange Leonardo.
Ouais.
Pour moi, ce sont les deux grands piliers de la peinture et qui m'ont toujours inspiré dans ses œuvres et que j'adore et que ce sont les plus grands peintres du monde qui ont marqué l'histoire de la peinture. Après Van Gogh, mais après, comme je vais pas vous réciter toute l'histoire de l'art.
Je me demandais si tu étais pas inspiré aussi par Modigliani.
Si, j'en ai au moins une dizaine de peintres que j'aime beaucoup, filles ou garçons. Mais oui, ce sont des peintres qui ont marqué aussi l'histoire, comme Modigliani, Dali, Frida Kahlo, Taramada Impica, Séraphine. Après, il y a en homme, il y a Courbet, il y a Toulouse-Lautrec. Quand j'étais petit, je prenais des crayons et je dessinais sur des feuilles et je faisais de l'art. Et après, ma mère m'a inscrit à un cours de peinture avec Gaspard Schlum. Mon maître qui m'a appris toutes ces techniques, par exemple une technique, je peux vous en citer, peindre avec un chiffon.
C'est quoi comme technique?
Peindre au chiffon, c'est tu remplis ton carton ou ta toile en noir et après tu prends un chiffon et tu fais des yeux, des nez, la bouche avec un chiffon sur un fond noir et ça rend un rendu assez magnifique.
Est-ce que tu fais de la peinture à l'éponge?
Je fais de la coulure à l'huile, à l'essence de térébenthine ou white spirit. Ma mère m'avait acheté un garage au Mans pour moi. En haut, il y avait mon atelier et en bas, il y avait ses affaires de rangement. Et du coup, j'ai pu peindre. J'en ai fait en œuvre, le nombre de toiles et de peintures, je peux vous dire le nombre de peintures, j'en ai fait 200. Donc voilà, 200 peintures à exposer dans la cave à Morlaix, dans notre nouvelle maison.
Théo, je vais te demander un exercice radiophonique pas simple pour nos auditeurs.
Je t'écoute.
Est-ce que tu pourrais nous décrire un tableau que tu as peint et que tu aimes particulièrement? Ça veut dire la taille, la matière, peut-être aussi un peu les couleurs et puis le sujet.
Bien sûr.
Tu pourrais nous faire ça?
Bien sûr. Alors, je peux vous en citer un que j'aime beaucoup. C'est un ange qui mesure 3 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur à l'huile, avec des ailes.
De quelle couleur il est?
Le visage est de couleur jaune nappe avec du blanc titane. La bouche est d'un rose. Les yeux sont noirs avec du noir et du blanc pour la pupille. La veste et le corps, ce sont des plis en noir et blanc. Les ailes sont de couleur ocre et blanche et noire. Et j'ai mis un mois à le faire. C'était ma plus grosse peinture à faire au monde.
Et quelle était ta source d'inspiration ?
Mon inspiration, c'était rendre hommage à des peintres que j'aimais le plus. Voilà.
Est-ce que pour toi, peindre,
ça me repose.
C'est une envie, un besoin vital
C'est un besoin vital.
C'est un besoin vital?
Oui.
Ouais. Dans quel état tu es quand tu peins? Tu dirais quoi? Comment tu te décrirais à ce moment-là?
Comment je me décris? Je me décris en apaisant et puis concentré. Et je peins avec de la musique. Je mets la musique et la musique m'aide à m'apaiser, à me contrôler, et à rendre quelque chose de très beau dans ma peinture. Donc je peux écouter de tout, mais quand je peins, je mets Queen, parce que Queen, ça reste mon groupe préféré, parce que c'est le seul groupe qui me permet de peindre avec une telle douceur dans la peinture.
T'as été des fois sans pouvoir peindre, sans
oui,
que ce soit possible
sûr.
De peindre. Et alors, qu'est-ce que...
J'ai arrêté six mois la peinture, et quand j'ai repris la peinture, je peignais comme un enfant de 6 ans. En gros, il ne faut jamais s'arrêter en peinture. Il faut toujours continuer. Si tu arrêtes, tu retombes au niveau zéro. Tu retombes au niveau zéro pour la peinture.
Tu peins tous les jours?
Oui. Ma mère, en ce moment, m'a donné un exercice, c'est de faire un bouquet de fleurs à la peinture. C'est très dur. Les fleurs sont très très dures. C'est plus dur qu'un visage ou un paysage marin.
Qu'est-ce que tu penses du street art?
J'adore.
Ouais.
J'adore énormément. Je suis allé à Paris voir une exposition sur le street art. Et du coup, c'était des graffitis des années 80 jusqu'à les années 2000. Et ils expliquaient dans les graphes que c'était, à la base, le graphe était un symbole de gang aux États-Unis. À cette époque, c'était, chaque gang avait un tag et un graphe qui représentait leur société et leur groupe. Bon, pour moi, chaque être humain a une part d'art en lui. Même s'il a jamais commencé la peinture, chaque personne a une art en lui. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans la peinture, ça peut être dans la voix, ça peut être dans n'importe quelle chose.
On est tous un peu des artistes, c'est ce que tu veux dire?
Exactement. Comme Gwenda qui fait l'accordéon, comme toi qui fais du piano, comme Didier qui va voir des concerts. Et voir des concerts, c'est une part de musique en lui. Et c'est super, et c'est bien d'avoir une part de musique en soi.
Tu aurais quelque chose à rajouter, Théo?
Soyez vous-même.
Ce sera le mot de la fin.
Exactement.
Merci, Théo.
Sur Micro Standard, les émissions ne sont pas rasoirs.
Avoir un esprit critique, pour moi, c'est essayer, ne serait-ce que dans toutes les matières, mais je pense au monde à l'heure actuelle où qui est si si violent, si brutal. Je pense que garder un esprit critique, c'est ne pas réagir tout de suite, garder un petit peu de recul vis-à-vis des événements. Et je vais vous expliquer une chose qui m'est arrivée quand j'étais responsable de la vie scolaire, éducateur de vie scolaire dans mon boulot. Il y a un gars un jour qui a eu le malheur de dire qu'il était d'extrême droite et qu'il fréquentait un groupe de Rennais d'extrême droite, et tout l'internat s'est mis à le chahuter et à devenir assez violent avec lui. Et j'ai réuni l'internat et on a fait un point sur ce que c'était la démocratie. La démocratie, ça part de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Et il faut, entre guillemets, se tolérer les uns les autres. Et que la démocratie, c'est donc de ne pas se laisser envahir par ses émotions, et donc de composer. Et moi, je suis capable, avec le recul que j'ai un petit peu sur la vie, de discuter avec n'importe qui sans imposer mes idées. Et je les écoute, et c'est ça qui est important, en fait. Dans le journalisme, par exemple, il y a Daniel Mermet sur France Inter qui analysait le vote du Front National à Marseille. Ils allaient visiter tous les quartiers de Marseille et il a demandé aux gens pourquoi ils votaient Front National. Et ils lui ont répondu franchement, quoi. Et je pense que c'est du bon journalisme d'investigation, entre guillemets.
Tu disais que toi, t'écoutais les gens.
Ouais.
À quel point c'est important, justement, d'écouter l'autre ?
Bah pour qu'il soit pris en compte véritablement, parce que, en fait, moi, j'avais commencé un petit poème, et puis j'avais dit que j'avais autant de respect pour un mendiant, pour un millionnaire sur Terre. Et que chacun d'entre eux avait une partie de la vérité. Et écouter l'autre, c'est le faire exister, en fait.
Jean-Mi, toi qui es pigiste à Ouest-France, comment tu expliques qu'au journal télévisé, à 13h, à 20h, sur tous les magazines d'information BFM, on ne parle que des catastrophes, de tout ce qui va mal, et on ne parle jamais des beaux événements? Comment t'expliques ça, toi qui es pigiste?
Effectivement, il y a une culture du catastrophisme.
Ça fait vendre, quoi.
Qui règne, et ça fait vendre. Moi, les faits divers, je les... Parfois, je les ignore, parce que... Mais parfois, ils sont très significatifs aussi d'une époque, et ils sont intéressants à analyser. Donc... Et je vais te citer une émission sur France Inter. Moi, j'écoute le jeu des 1000 euros tous les jours. Et juste avant, il y a une émission qui s'appelle Carnet de campagne. Et cette émission-là souligne tous les aspects positifs qu'ont certaines initiatives citoyennes. Et ça, je trouve que c'est bien parce que, comme tu dis, il y a eu des essais de chaînes ou de radios qui ont essayé de percer... dans le positif, entre guillemets. Et il y a un lobby du sensationnel qui a tout de suite fait un rôle sur le baudet, entre guillemets. Et donc, comment dire, il faut essayer justement de cultiver les choses qui vont bien dans le monde, parce que comme tu disais, Didier, il y a plein d'initiatives qui sont prises, et heureusement quelquefois on les montre ou on les fait parler, mais
c'est rare, quoi.
Voilà, c'est les trois quarts des journaux, c'est du négatif, quoi.
Tout à l'heure, tu parlais de ta capacité d'écoute. Est-ce que quand même, des fois, tu as envie de faire changer les idées des gens ? Ça t'est déjà arrivé ?
C'est une bonne question. Je vais essayer de répondre. Il y a, je ne sais pas si le terrain est glissant, mais il y a des gens qui ne sont pas démocrates et qui rêveraient que certains ouvrages ne figure plus dans les bibliothèques. Alors, moi, je vais parler, par exemple, de Louis-Ferdinand Céline, qui est, pour moi et pour le prof de lettres que j'avais été, un très grand écrivain, sauf dans la période où en fait, il était carrément antisémite, entre guillemets. Et le Voyage au bout de la nuit... est un des plus grands romans du XXe siècle, et il est autant apprécié à gauche qu'à droite, entre guillemets. Et garder son esprit critique, c'est justement garder ce qu'a pu apporter Céline de positif dans la littérature, et de rejeter évidemment très vite ces idées extrémistes.
Mais avoir un esprit critique, tu crois pas que c'est accepter de ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mauvais dans l'être humain ?
L'esprit critique, oui, c'est sûr, c'est ça. Mais c'est aussi... moi, je rêve, mais c'est un rêve.
Tu rêves de quoi, Jean-Mi ?
Ben, je rêve d'une, démocratie parfaite, entre guillemets.
Mais la perfection n'existe pas.
Non. Et en fait, pour moi, une démocratie parfaite, ce serait aujourd'hui avec tous les problèmes qu'il y a, avec tous les problèmes qu'il y a au lendemain de la guerre 39-45, il y a eu un front sacré qui s'est créé autour de gens comme le général de Gaulle, mais autres aussi, des personnalités issues de la droite comme de la gauche, et qui ont réussi à bâtir des systèmes comme notre fameuse sécurité sociale, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, le pouvoir corrompt et les gens sont là pour la part du gain. Alors que s'il y avait un gouvernement d'unité nationale, pas fasciste ni rien du tout, hein, mais d'unité nationale, c'est-à-dire prendre des idées qui peuvent être correctes dans un parti, tout comme un autre, faire remonter ça, ce serait quand même merveilleux. Quoi.
Jean-Michel, on a de nombreux auditeurs qui t'écoutent. Est-ce que tu peux nous partager, si tu le veux bien, ta recette du bonheur ?
La recette du bonheur, c'est fait de petits riens. C'est fait d'un sourire, c'est fait d'un échange.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit ?
Oui, je suis quelqu'un d'ordinaire. C'est Charles Bois qui chantait. Et en fait, je dis à mes enfants, surtout mes enfants, n'oubliez jamais d'où vous venez. Et ça, ça me paraît important.
Micro-Standard.
L'émission des stars.
Au cours de cette émission, notre vision sur l'écoute a beaucoup évolué. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur les sites de Radio Micro-Standard et Radio U.
Merci de nous avoir entendus. Nous espérons que vous nous avez écoutés. Et merci à Pierre-Louis, notre nouvel animateur.